Philos amourons. Chaque semaine, je vous lis quelques chapitres de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 77 son ouvrage sous une forme de dictionnaire dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, notamment Les souffrances du jeune Werther de Goethe et La recherche du temps perdu de Proust, mais aussi sur des philosophes, des psychologues et sur son propre vécu. Cette semaine, nuages, nuit, objet et obscène. Nuages, sens et usage de l'assombrissement d'humeur qui saisit le sujet amoureux au gré de circonstances variées. Werther est aimable avec Frédéric, la fille du pasteur auquel Charlotte et lui rendent visite. Le visage de Monsieur Schmidt, le fiancé de Frédéric, s'assombrit d'autant. Il refuse de participer à la conversation. Werther fait alors le procès de la mauvaise humeur. Elle vient de notre jalousie, de notre vanité. C'est un mécontentement de nous-mêmes dont nous faisons porter le poids aux autres, etc. Nommez-moi donc, dit Werther, l'homme qui, étant de mauvaise humeur, est assez honnête pour le dissimuler, le supporter tout seul, sans détruire la joie autour de lui. Cet homme est évidemment introuvable, car la mauvaise humeur n'est rien d'autre qu'un message. Ne pouvant être manifestement jaloux sans divers inconvénients, dont le ridicule, je déplace ma jalousie. Je n'en donne qu'un effet dérivé, tempéré, et comme inachevé, dont le motif véritable n'est pas dit ouvertement. Incapable de cacher la blessure et n'osant en déclarer la cause, je transige. Je fais avorter le contenu sans renoncer à la forme. Le résultat de cette transaction est l'humeur, qui se donne à lire comme l'index d'un signe. Ici, vous devez lire que quelque chose ne va pas. Je pose simplement mon pathos sur la table, me réservant de déplier le paquet plus tard selon les circonstances. Soit que je me découvre, au gré d'une explication, soit que je me drape. L'humeur est un court-circuit entre l'état et le signe. Méconnaissance. Werther fait le procès de la mauvaise humeur en ce qu'elle pèse sur ceux qui vous entourent. Cependant, plus tard, lui-même se suicidera, ce qui sera d'un autre poids. Le suicide d'amour serait-il une humeur un peu poussée ? Telle est la mauvaise humeur. C'est un signe grossier, un chantage honteux. Il est cependant des nuages plus subtils. Toutes les ombres ténues, de causes rapides, incertaines, qui passent sur la relation, changent la lumière, le relief. C'est tout d'un coup un autre paysage, une légère ivresse noire. Le nuage alors n'est plus que ceci. Quelque chose me manque. Je parcours fugitivement les états du manque par lesquels le zen a su coder la sensibilité humaine. Furieux. La solitude, Sabi, la tristesse, qui me vient de l'incroyable naturalité des choses, Wabi, la nostalgie, Aware, le sentiment de l'étrange, Yogen. Je suis heureuse, mais je suis triste. Tel était le nuage de Mélisande. Tout état qui suscite chez le sujet la métaphore de l'obscurité, affective, intellectuelle, existentielle, dans laquelle il se débat ou s'apaise. J'éprouve tour à tour deux nuits, l'une bonne, l'autre mauvaise. Je me sers, pour le dire, d'une distinction mystique. Estar a oscuras, être dans l'obscur, peut se produire sans qu'il y ait faute. parce que je suis privé de la lumière des causes et des fins. Estar en tinieblas, être dans les ténèbres, m'advient lorsque je suis aveuglé par l'attachement aux choses et le désordre qui en provient. Le plus souvent, je suis dans l'obscurité même de mon désir. Je ne sais ce qu'il veut. Le bien lui-même m'est un mal, tout retentit. Je vis au coup par coup. Estoy en tinieblas. Mais parfois aussi, c'est une autre nuit. Seul, en position de méditation, c'est peut-être un rôle que je me donne, je pense à l'autre calmement, tel qu'il est. Je suspends toute interprétation. J'entre dans la nuit du non-sens. Le désir continue de vibrer. L'obscurité est translumineuse. Mais je ne veux rien saisir. C'est la nuit du non-profit, de la dépense subtile, invisible. Estoy a oscuras. Je suis là, assise simplement et paisiblement dans l'intérieur noir de l'amour. La seconde nuit enveloppe la première. L'obscur illumine la ténèbre. Et la nuit était obscure et elle éclairait la nuit. De Jean de la Croix. Je ne cherche pas à sortir de l'impasse amoureuse par la décision, l'emprise, la séparation, l'oblation, etc. Bref, par le geste. Je substitue seulement une nuit à l'autre. Obscurcir cette obscurité, voilà la porte de toute merveille. Objet. Tout objet, touché par le corps de l'être aimé, devient partie de ce corps, et le sujet s'y attache passionnément. Werther multiplie les gestes de fétichisme. Il embrasse le nœud de ruban que Charlotte lui a donné pour son anniversaire. Le billet qu'elle lui adresse, quitte à se mettre du sable aux lèvres, les pistolets qu'elle a touchés. De l'être aimé sort une force que rien ne peut arrêter et qui vient imprégner tout ce qui l'effleure, fût-ce du regard. Si Werther, ne pouvant aller voir Charlotte, lui envoie son domestique, c'est ce domestique lui-même sur lequel elle a posé son regard qui devient pour Werther une partie de Charlotte. Je lui aurais bien pris la tête entre mes mains pour lui donner un baiser, n'eût été le respect humain. Chaque objet ainsi consacré, placé dans l'enceinte du dieu, devient semblable à la pierre de Bologne, qui irradie la nuit les rayons qu'elle a emmagasinés pendant le jour. Chez Lacan, il met le phallus à la place de la mère, s'identifie à lui. Werther veut qu'on l'enterre avec le ruban que Charlotte lui a donné. Dans la tombe, il se couche le long de la mer, précisément alors évoquée. Tantôt l'objet métonymique est présence, engendrant la joie, tantôt il est absence, engendrant la détresse. De quoi donc dépend ma lecture ? Si je me crois en passe d'être comblé, l'objet sera favorable. Si je me vois abandonné, il sera sinistre. En dehors de ces fétiches, nul autre objet dans le monde amoureux. C'est un monde sensuellement pauvre, abstrait, épongé, désinvesti. Mon regard traverse les choses sans reconnaître leur séduction. Je suis morte à toute sensualité, hors celle du corps charmant. Du monde extérieur, la seule chose que je peux associer à mon état, c'est la couleur du jour. Comme si le temps qu'il fait était une dimension de l'imaginaire. L'image n'est ni colorée, ni profonde, mais elle est pourvue de toutes les nuances de la lumière et de la chaleur, communiquant avec le corps amoureux, qui se sent bien ou mal, globalement, unitivement. Dans le haïku japonais, le code veut qu'il y ait toujours un mot qui renvoie au moment du jour et de l'année. C'est le kigo, le mot saison. Du haïku, la notation amoureuse garde le kigo, cette mince allusion à la pluie, au soir, à la lumière, à tout ce qui baigne, diffuse.
Oh,
obscène. Discréditée par l'opinion moderne, la sentimentalité de l'amour doit être assumée par le sujet amoureux comme une transgression forte, qui le laisse seul et exposé. Par un renversement de valeurs, c'est donc cette sentimentalité qui fait aujourd'hui l'obscène de l'amour. Exemple d'obscénité. Chaque fois qu'ici même on emploie le mot amour. L'obscénité cesserait si l'on disait, par dérision, la mûre. Ou encore, soirée à l'opéra. Un très mauvais ténor fait apparition sur la scène. Pour dire son amour à la femme qu'il aime et qui est à ses côtés, il se plante face au public. Je suis ce ténor. Tel un gros animal, obscène et stupide, vivement éclairé d'une lumière de vitrine, je déclame une aria très codée, sans regarder qui j'aime et à qui je suis censé m'adresser. Ou encore, citation de Thomas Mann. Il ne lui semblait pas que ce mot, amour, gagnât à être aussi souvent répété. Au contraire, ces deux syllabes finirent par lui paraître très répugnantes. Elles étaient associées à une image comme du lait mouillé, quelque chose de blanc, bleuâtre, de douceâtre. Ou enfin, mon amour est un organe sexuel d'une sensibilité inouïe, qui vibrerait en me faisant pousser des cris atroces, les cris d'une éjaculation grandiose mais puante, en proie au don extatique que l'être fait de soi-même en tant que victime nue, obscène, devant les grands éclats de rire des prostituées. Citation de Bataille. L'œil pinéal. Je prendrai pour moi les mépris dont on accable tout pathos. Autrefois, au nom de la raison, pour qu'une aussi ardente production, dit Lessing, de Werther, ne fasse pas plus de mal que de bien, ne croyez-vous pas qu'il lui faudrait une petite péroraison bien froide ? Aujourd'hui, au nom de la modernité, qui veut bien d'un sujet, pourvu qu'il soit généralisé. La véritable musique populaire, la musique des masses, la musique plébéienne, est ouverte à tous les déferlements des subjectivités de groupe, non plus à la subjectivité unique, à la belle subjectivité sentimentale du sujet scellé. Citation de Daniel Charles dans Musique et oubli. Rencontrer un intellectuel amoureux. Pour lui, assumer, ne pas refouler l'extrême bêtise, la bêtise nue de son discours, c'est la même chose que pour le sujet bataillien se dénuder dans un lieu public. C'est la forme nécessaire de l'impossible et du souverain. Une abjection telle qu'aucun discours de la transgression ne peut la récupérer et qu'elle s'expose sans protection au moralisme de l'antimoral. De là, il juge ses contemporains comme autant d'innocents. Ils sont innocents, ceux qui censurent la sentimentalité amoureuse, au nom d'une nouvelle moralité. La marque distinctive des âmes modernes, ce n'est pas le mensonge, mais l'innocence, incarnée dans le moralisme mensonger. Faire partout la découverte de cette innocence, c'est peut-être la part la plus rebutante de notre travail. Citation de Nietzsche, dans La généalogie de la morale. Renversement historique. Ce n'est plus le sexuel qui est indécent, c'est le sentimental. Censurer au nom de ce qui n'est au fond qu'une autre morale. L'amoureux délire. Il déplace le sentiment des valeurs. Mais son délire est bête. Quoi de plus bête qu'un amoureux ? Si bête que nul n'ose tenir publiquement son discours sans une sérieuse médiation. Roman, théâtre ou analyse, à bout de pincettes. Le daimon de Socrate, celui qui parlait d'abord en lui, lui soufflait « non ». Mon daimon, c'est au contraire ma bêtise. Tel l'âne nietzschien, je dis oui à tout dans le champ de mon amour. Je m'entête, refuse l'apprentissage, répète les mêmes conduites. On ne peut m'éduquer, et moi-même ne le peux. Mon discours est continuellement irréfléchi. Je ne sais pas le retourner, l'échelonner, y disposer des regards, des guillemets. Je parle toujours au premier degré, je m'en tiens à un délire sage, conforme, discret, apprivoisé, banalisé par la littérature. La bêtise, c'est d'être surpris. L'amoureux l'est sans cesse. Il n'a pas le temps de transformer, de retourner, de protéger. Peut-être connaît-il sa bêtise, mais il ne la censure pas. Ou encore, sa bêtise agit comme un clivage, une perversion. C'est bête, dit-il, et pourtant, c'est vrai. Tout ce qui est anachronique est obscène. Comme divinité moderne, l'histoire est répressive. L'histoire nous interdit d'être inactuelle. Du passé, nous ne supportons que la ruine, le monument, le kitsch ou le rétro, qui est amusant. Nous le réduisons, ce passé, à sa seule signature. Le sentiment amoureux est démodé, mais ce démodé ne peut même pas être récupéré comme spectacle. L'amour, choix hors du temps, intéressant. Aucun sens historique, polémique ne peut lui être donné. C'est en cela qu'il est obscène. Dans la vie amoureuse, le tissu des incidents est une incroyable futilité, et cette futilité, alliée au plus grand sérieux, est proprement inconvenante. Lorsque j'imagine gravement de me suicider pour un téléphone qui ne vient pas, il se produit une obscénité aussi grande que lorsque chez Sade, le pape sodomise un dindon. Mais l'obscénité sentimentale est moins étrange, et c'est ce qui la fait plus abjecte. Rien ne peut dépasser l'inconvenance d'un sujet qui s'effondre parce que son autre a pris un air absent. Alors qu'il y a encore tant d'hommes dans le monde qui meurent de faim, que tant de peuples luttent durement pour leur libération, etc. L'impôt moral décidé par la société sur toutes les transgressions frappe encore plus aujourd'hui la passion que le sexe. Tout le monde comprendra que X ait d'énormes problèmes avec sa sexualité, mais personne ne s'intéressera à ceux que Y peut avoir avec sa sentimentalité. L'amour est obscène en ceci précisément qu'il met le sentimental à la place du sexuel. Tel vieux poupon sentimental, Fourier, qui mourait brusquement en état amoureux, apparaît aussi obscène que le président Félix Faure, frappé de congestion aux côtés de sa maîtresse. Nous deux, le magazine, est plus obscène que Sade. L'obscénité amoureuse est extrême. Rien ne peut la recueillir, lui donner la valeur forte d'une transgression. La solitude du sujet est timide, privée de tout décor. Aucun bataille ne donnera une écriture à cette obscène-là. Le texte amoureux, à peine un texte, est fait de petits narcissismes, de mesquinerie psychologique. Il est sans grandeur, ou sa grandeur, mais qui socialement est là pour la reconnaître, et de ne pouvoir rejoindre aucune grandeur, pas même celle du matérialisme bas. C'est donc le moment impossible où l'obscène peut vraiment coïncider avec l'affirmation, l'amen, la limite de la langue. Tout obscène dissible comme tel ne peut plus être le dernier degré de l'obscène. Moi-même, en le disant, fût-ce à travers le clignotement d'une figure, je suis déjà récupéré. C'était Philos Amourons, lecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Cette semaine, nous avons écouté les chapitres Nuages, Nuit, Objet et Obscène. Le morceau de musique que vous avez entendu est Israfel, un poème d'Edgar Poe mis en musique par Philo. À la lecture, Jean-Siane. À la semaine prochaine.